Sur la question de l'exécution du contrat, prenons un moment pour voir comment, dans la vie des affaires, se traite cette question. Parce que l'article 1217 du Code civil, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 10 février 2016, et regardons-le un instant, offre aux créanciers insatisfaits plusieurs remèdes, plusieurs solutions. Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution des contrats ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, il faudrait dire et ou demander, car ces différents remèdes peuvent être, dans la mesure où ils sont compatibles, cumulés. Alors pour voir cette question, je suis avec deux praticiens, avec Stéphanie Fougou et avec Christophe Heck. Donc Stéphanie Fougou, directrice juridique du groupe Vallourec et présidente de l'AFJE, Christophe associé au cabinet Gide. Comment est-ce que dans la pratique du contrat, on aborde cette question de mauvaise exécution? Est-ce que cette carte, ce menu qui est offert par l'article 1217, est-ce que tous les plats sont également appétissants? Est-ce qu'il y a des moyens qui vous semble être le tout premier moyen vers lequel vous irez, ou est-ce que c'est quelque chose qui, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions licites, j'entends, qui ne sont pas listées par la précision est inutile, qui ne sont pas mentionnées par l'article 1217, mais qui pourraient être mises en œuvre, Stéphanie?
Je pense que le fait d'avoir un menu est de toute façon utile et intéressant. Et c'est déjà j'allais dire, en partie une situation qui pouvait exister. La notion de réparation des conséquences de l'inexécution, ça existait d'ores et déjà dans la jurisprudence. Je vois deux cas qui peuvent être très utiles assez rapidement. Celui de la poursuite de l'exécution forcée en nature de l'obligation. Si véritablement, évidemment, j'allais dire, le partenaire, le co-contractant est en mesure d'effectuer cette exécution et que c'est plus de la mauvaise foi à ne pas vouloir la rendre, je pense que dans certains contrats, il est fort utile de pouvoir forcer cette exécution. Viendra la question de savoir en quel délai on peut faire organiser ça. Solliciter une réduction de prix peut avoir un incentive, j'allais dire, assez fort dans le cadre des négociations, voire de pousser à la renégociation des contrats ou à remettre les choses dans le droit fil. J'ai eu pour ma part mettre en œuvre, j'allais dire, c'est la première option que l'on peut voir, qui est celle de suspendre sa propre exécution, donc une exception d'inexécution, et qui est fort utile et qui véritablement crée un vrai levier de négociation. Celle qui me paraît à brûle-pourpoint un peu moins directement utilisée par les praticiens ou utilisable, j'allais dire, serait celle de provoquer la résolution du contrat. Provoquer la résolution du contrat, ça veut donc dire remettre en l'état de la situation au moment de la négociation des contrats, au moment du démarrage des contrats. Ça peut être très pénalisant aussi pour la personne même qui le demanderait.
Sauf hypothèse donc d'une résiliation où le contrat aurait été bien exécuté pendant un certain
Absolument.
temps, et là on y met fin pour l'avenir. Oui.
Absolument.
Voilà. Mais c'est vrai que si on a une résolution, il faut à ce moment-là remettre les choses en l'état et ça devient beaucoup plus
Et en
long.
fonction de la longueur du contrat, ça peut paraître assez infaisable.
Christophe?
Oui, pour rebondir sur ce que disait Stéphanie sur la résolution, c'est pénalisant pour les deux parties. Donc c'est très compliqué, parce qu'on a souvent à mettre en œuvre des contrats complexes, et remettre les compteurs complètement à zéro, c'est théorique, c'est impossible. En revanche, je pense que l'avancée majeure sur cet article nouveau, qui reprend en fait dans sa carte du menu la jurisprudence de plus en plus établie, de la Cour de cassation notamment, c'est l'exécution forcée en nature de l'obligation. Parce qu'on avait souvent dans les contrats des parties de mauvaise foi qui se disaient de toute façon ça va se résoudre en dommages-intérêts, donc j'arrête et puis on discute combien ça me coûte d'en sortir. Là, et ça va être dans la pratique très important parce qu'on a de très nombreux contrats qu'on peut exécuter en nature. Le co-contractant va être maintenant assez réticent à arrêter un contrat et dire bon, bah, écoute, on discute ou je m'en vais.
D'accord. Alors une question que je voulais vous poser, c'est en tant que praticien l'un et l'autre, si ce texte n'est pas d'ordre public, est-ce que vous voyez des possibilités d'enrichir ce texte ou au contraire de supprimer certaines des prérogatives? Est-ce que par exemple, ça vous semblerait utile que le créancier, par contrat, s'interdise par avance de recourir à l'exception d'inexécution? alors peut-être même s'interdisent de recourir à la résolution. Enfin, on pourrait imaginer un créancier progressivement démuni de ses différentes prérogatives. C'est quelque chose qui vous parle en tant qu'idée pour une négociation, ou peut-être au contraire ajouter des remèdes qui ne seraient pas dans cet article 1217.
C'est un levier quand même pour l'exécution de bonne foi. Donc, il faut pas oublier qu'un contrat, c'est un équilibre. Il faut qu'il reste équilibré entre les deux parties. On peut envisager d'en exclure, exclure l'exécution en nature, parce qu'elle est totalement impossible. La suspension, si l'autre refuse d'exécuter, je pense qu'il faut voir au cas par cas, et je ne serais pas enclin à conseiller les clients d'exclure complètement l'application de cet article, parce que c'est un article qui défend les deux parties, notamment celui qui est de bonne foi.
C'est un article qui est équilibré.
Qui est équilibré, oui.
Oui, je suis pleinement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que dit comme ça, en dehors d'un contexte, on a tendance à ne pas vouloir véritablement exclure. Après, encore une fois, un contrat, c'est une situation particulière dans le cadre d'une négociation. Peut-être y aura-t-il des cas, en effet, sur la résolution, par exemple, où on pourrait être amené à ne pas la souhaiter. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que, de facto, on sait que cette situation existera avec cette possibilité, cet éventail, et que ça nous amènera, en tant que praticien, à plutôt se poser la question, y a-t-il des cas que l'on souhaiterait exclure, ou des cas qui nous mettraient dans l'embarras, ou qui mettraient le créancier, finalement, dans un levier non suffisant, ou voire inutile. Donc je pense que ça amènera en tout état de cause à se poser cette question.
Pour aller dans ce sens, on peut exclure, mais on prévoit aussi aujourd'hui, dans un contrat, comment le contrat, si une partie n'exécute pas complètement, est adapté, ou comment on peut remédier à cette inexécution partielle du contrat. Soit on reporte, soit on modifie, soit il y a des pénalités de retard, etc. Donc on peut à la fois conjuguer l'article 1217 avec des conditions pour modifier le contrat en cas d'inexécution partielle ou totale du contrat.
Je pense que vous avez raison. Typiquement, on y ajoutera certainement les questions de pénalité de retard ou autres. Ces points-là sont souvent en jeu.
D'accord. Eh bien, donc, nous avons, je crois, une assez bonne idée de la réaction de la pratique à cette question d'exécution du contrat. Merci beaucoup, chers amis.
Merci.
Merci.